peu de l'approbation du Parlement grec pour la commande de 18 avions Rafale. Le titre finit la journée en hausse de 0,6%. C'était Rémi Demichelis, Investir pour RFI.
Et on termine avec cet appel du pape François qui demande le vaccin du Covid-19 pour les plus pauvres. Le souverain pontife le dit dans un discours dévoilé aujourd'hui, jour de son anniversaire. On rappelle que les pays les plus riches du monde ont réservé la moitié des doses de vaccins les plus prometteurs selon l'université américaine Johns Hopkins, alors qu'ils ne représentent qu'un sixième de la population mondiale. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info dans moins d'une heure sur Radio France Internationale.
Radio G. 101.5 FM.
Vous aimez Radio G? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique Faire un don. Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne dédiée aux découvertes culturelles et locales sur Radio G. Alors ce soir, c'est la dernière émission de toute l'année. On a le cœur serré, le cœur gros. Peut-être qu'on est ravis de faire une pause, je ne sais pas, je vous laisse imaginer. En tout cas, avant de faire cette courte pause justement dans notre relation avec vous, auditeurs et auditrices, et de se retrouver en janvier 2021, l'année de tous les espoirs, nous avons préparé un joyeux programme. En deuxième partie d'émission, Benoît sera là avec Dans sa hotte, les actualités de la recherche et des sciences. Soyez là, on va encore apprendre plein de choses. Avant cela, nous avons coupé les cheveux en quatre les uns des autres pour vous proposer une chronique à quatre voix et six films qui tournent tous autour de Noël, bien sûr. Car vous avez dû remarquer, le réveillon, c'est déjà dans une semaine tout pile. Je ne l'avais pas réalisé pour ma part. Pour cette réjouissance radiophonique, je suis avec Margot. Salut Margot.
Bonsoir Anne-Lie. J'ai l'impression que tu n'as pas dû aller faire tes courses de Noël encore, parce que sinon, vu le monde, tu aurais deviné qu'on approchait.
Oui, c'est vrai. Salut Céleste.
Salut Anne-Lie.
Arrêtez de m'assassiner. Salut Mehdi.
Oh, salut Anne-Lie.
Je suis très contente qu'on soit ensemble pour faire cette émission. Avant le dicton du jour, je fais un erratum, car hier j'ai dit une bêtise. Ce n'est pas la journée qui appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt, c'est l'avenir. C'est encore plus important, encore plus vaste. Voilà, j'ai eu des retours à ce sujet. Et je prends un dicton un peu au hasard dans mon livre des dictons. Gardez-vous de l'homme qui ne connaît qu'un seul livre. Voilà, méditez là-dessus. Je vous propose une chanson pour débuter cette émission. C'est un classique. Je vous laisse écouter les paroles et la reconnaître tout simplement.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite me fait courber la tête et je sens sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
C'est mon nouveau tube personnel de fin décembre. C'était Françoise Hardy avec un titre qui date de 1965, Mon ami la rose. Et maintenant, on part dans une chronique cinéma écrite à plusieurs spéciales films de Noël.
C'est le nouveau copain que mon père m'a donné.
1, 2, 3, 4, 5. Arrête, Buzz. Fais pas le malin.
Marie, je me demandais, serait-il possible de déplacer l'ambassadeur du Japon à 16h demain?
J'ai beau étudier Noël dans les livres, j'ai beau m'en imprégner au point d'être ivre.
Ah oui? Ah, c'est très bon.
Ah oui?
Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi.
Belle hiverne.
On est très fiers de ce générique. En tout cas, c'est Mehdi qui commence avec le premier film.
Alors, moi, je vais vous parler d'un film que j'aimais beaucoup quand j'étais petit et je l'aime toujours autant. C'est Les Gremlins, sorti en 1984. Au départ, Les Gremlins, c'est un scénario écrit par Chris Columbus, scénariste de Maman, j'ai raté l'avion et des deux premiers Harry Potter. Un scénario assez gore et sombre qui avait été quelque peu revisité par Steven Spielberg, producteur du long métrage, et un long métrage réalisé par Joe Dante. On a en apparence un film de Noël fantastique avec le mignon petit Mogwai Gizmo, une petite peluche animale attendrissante qui donnera naissance à d'horribles monstres, conduisant le film vers un univers plus sombre. Rempli de beaucoup de scènes de suspense, Les Gremlins nous rappellent le fonctionnement des films d'horreur, ce qui a valu au long métrage le rang de comédie horrifique. Ce film prévu normalement pour des enfants, pour partager un moment familial et féerique pendant les fêtes de Noël, a donné lieu au PJ-13, le PJ-13 qui signifie accord parental recommandé et film déconseillé au moins de 13 ans. Donc tout ça à cause d'un film de Noël. Ce qui nous laisse penser que la triplette infernale Columbus, Spielberg et Dante avait prévu dans les moindres détails de nous sortir un film plutôt parodique où les rêveries de Noël se transforment en véritable cauchemar. Ce qui ne m'a bien sûr pas empêché de le voir bien avant mes 13 ans, comme beaucoup de jeunes j'imagine. Le risque pris avec ce film a effectivement marqué nos esprits car je ne regarde pas énormément de films de Noël. Mais Les Gremlins, ça me fait toujours autant de plaisir de le revoir, car c'est un long métrage qui a su retenir mon attention, bien plus que les autres dans ma jeunesse, et qui me donnera toujours ce doux sentiment qui nous rend heureux et tristes à la fois, la nostalgie. D'ailleurs, le fait d'en parler dans cette chronique me donne envie de le regarder incessamment sous peu. Il y a une scène que j'adore, c'est bien sûr la scène de la cuisine, donc je vais vous raconter. Les Gremlins ont muté dans leur cocon visqueux et dégoûtant. La mère de Billy, le héros, tombe sur les cocons et entend des bruits inquiétants dans la cuisine. Ensuite s'enchaînent des scènes d'horreur. Elle parvient à tuer 3 Mogwai transformés. Le premier est haché dans un mixeur. Le second poignardé frénétiquement par la mère. Et le troisième explose dans son micro-ondes et on le voit littéralement exploser. Et alors qu'elle est en train de se faire étrangler par un quatrième, Billy, son fils, arrive et décapite le monstre et sauve sa mère. Donc sympa comme film de Noël.
Très détendu, ouais. Ouais.
D'ailleurs, petite anecdote, Columbus, le scénariste, avait à l'origine prévu que ce soit la mère qui soit en fait décapitée, que vous vous rendiez bien compte à quel point, à la base, le film n'était pas du tout fait pour être regardé par des enfants.
Thank you.
Voilà, c'était la scène de la cuisine. Il y a aussi la scène de la petite amie de Billy qui nous explique que son père est mort en essayant de rentrer par la cheminée pour amener des cadeaux et qu'il a glissé, s'est tué suite à l'impact de sa chute. Bref, franchement, je conseille ce film pour ceux qui en ont parfois marre des films où tout se passe bien pendant les périodes de Noël.
Ou marre de Noël.
Ouais. Et qui cherchent donc un peu de sarcasme et de folie. Et en plus, pour les anticapitalistes, il y a un double sens sur la surconsommation de la société humaine. Les hommes qui se transforment tout autant que les gremlins pour surconsommer. Et pour ceux qui ne me croient pas, il suffit de regarder ce qui se passe le Black Friday ou lors de réductions sur le Nutella, des hommes qui se transforment en véritables gremlins.
Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris.
Je suis pas bien, un oubli.
Ah non, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier.
Kevin !
C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai.
Que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, on a raté l'avion et qu'on est seul à la maison ? Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus.
Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone en VO. S'il est bien un film qu'on ne regarde plus de la même manière en 2020, c'est bien celui-là. Réalisé en 1990, c'est-à-dire il y a déjà 30 ans, par Chris Columbus, encore lui justement, il met en scène Kevin, garçon de 10 ans, oublié chez lui par sa famille, parti fêter Noël à Paris. Évidemment, ces quelques jours seuls à la maison ne seront pas de tout repos. Et naturellement, vu le succès commercial du film, il y aura un nouvel épisode 2 ans plus tard, toujours avec Macaulay Culkin dans le rôle principal. Alors, qu'est-ce qui gratte en 2020 à la vue de cette comédie familiale ultra populaire ? Déjà, mon regard féministe a beaucoup de compassion pour cette mère de 11 enfants, excusez du peu, qui, dès le titre français, se voit clouée au pilori pour avoir oublié son fils à la maison. Mais où sont donc les hommes dans cette tribu ? En l'occurrence, son mari. Par ailleurs, qui dit 11 enfants, dit alerte au méga cluster Covid potentiel. Et là, vous voyez tous de quoi je veux parler. Vu le nombre de mains non désinfectées qui ont dû tripoter toutes les surfaces possibles, de la rampe d'escalier aux poignées de porte, ça devient franchement dangereux comme baraque à cambrioler. Du coup, le scénario paraît complètement invraisemblable. Ah, c'était déjà le cas en 1990. Bon, bah à Noël, on pardonne tout. Mais essayez un peu de visualiser l'affiche en ajoutant un masque FFP2 sur le visage grimaçant de Macaulay Culkin. Et là, ça devient franchement drôle.
Maman, j'ai raté l'avion, un film culte bien sûr, de Chris Columbus. Et maintenant, on découvre le choix de Céleste.
Alors personnellement, je voulais vous parler d'une histoire de Charles Dickens, intitulée Un chant de Noël, ou A Christmas Carol dans la langue des Beatles. L'histoire raconte celle de Scrooge, un être acariâtre, avare et mauvais, ne connaissant ni la bienveillance ni la charité, détestant Noël et traitant mal son seul employé. Scrooge reçoit, le soir de Noël, la visite du fantôme de Marley, son associé mort depuis 7 ans exactement. Ce dernier le prévient qu'il recevra la visite de 3 esprits, représentant respectivement les Noëls passés, présents et futurs. Leur but va être de changer Scrooge afin qu'il devienne un être bon et qu'il évite la damnation. C'est un grand classique outre-Manche. Et cette histoire a eu moult adaptations. Mais je vais vous en parler de 3 qui valent le coup d'œil. Commençons donc par le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis.
Qu'est-ce que vous me voulez ?
Vous allez avoir la visite de 3 esprits. J'aimerais mieux pas.
Ce film, tout en animation 3D, a pour vedette Jim Carrey dans le rôle de Scrooge et les 3 esprits, mais aussi Gary Oldman, que vous avez pu voir dans Harry Potter, Léon ou Dracula, dans celui de l'employé et de Marley. Ça date de 2009, donc les techniques ont évolué et portent un peu préjudice, notamment au niveau des visages qui semblent un peu trop lisses, mais les décors sont magnifiques et vastes. Le réalisateur qui nous a déjà offert Roger Rabbit et la trilogie Retour vers le futur profite de l'animation pour offrir des séquences qui pourraient être difficiles à retranscrire en live. Il s'amuse avec sa caméra, ce qui rend le film quand même appréciable. Toutefois, aussi sympathique soit-il, le film n'arrive pas à la cheville du film suivant, que je porte particulièrement dans mon cœur, puisque c'est une comédie musicale, Le Noël des Muppets.
Bonjour, monsieur Santerre, monsieur le vampire, c'est avec nous, votre
qu'il construit son empire.
Il n'a qu'un but, un seul désir, faire souffrir et haïr.
C'est de pire en pire, ça empire, ce Scrooge est un vampire.
Réalisé par Brian Henson, soit le fils du créateur des Muppets, le film raconte la même histoire que celui avec Jim Carrey. Mais cette fois, nous avons des Muppets pour tous les rôles. Celui de l'employé maltraité, par exemple, est joué par Kermit. Le rôle de Scrooge est cependant tenu par un humain, Michael Caine, que vous avez pu voir dans plusieurs films de Christopher Nolan. Aucune partie animée ici et les décors sont assez peu fournis, comme si on assistait à une pièce de théâtre. C'est un peu plus bon enfant que le film d'avant, et en plus c'est musical. Et les numéros musicaux sont très cool. Dans mes recommandations, j'ai aussi Le Noël de Mickey, un court-métrage racontant la même histoire, mais avec les protagonistes remplacés par des personnages bien connus de Disney. Ainsi, l'employé devient Mickey, le neveu du personnage principal est Donald, et ainsi Scrooge et Picsou. D'ailleurs, son dernier doit son nom et sa création à Charles Dickens. En effet, Karl Barks, qui a créé à peu près tout l'univers de Picsou, dont ce dernier, à part Donald, s'est inspiré du personnage principal de A Christmas Carol pour créer son multimilliardaire. Aussi, son nom en anglais, slash version originale, est Scrooge McDuck. Le rapprochement est évident. C'est de là même que viennent ces traits de caractère avare, pingre et acariâtre. Un petit mot sur la VF des trois films. Les deux longs métrages et le court possèdent une VF assez maîtrisée et dotée de voix familières. Jim Carrey a sa voix française habituelle, de même pour les personnages de Noël de Mickey ou des Muppets. Le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, le Noël des Muppets de Brian Henson et le Noël de Mickey de Bernie Mattinson sont tous les trois disponibles en DVD ou en streaming sur Disney+.
Alors moi, s'il y a un film, si ce n'est l'unique film que j'ai regardé en boucle quand j'étais enfant, c'était celui-ci.
Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes ? Non ? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète.
Il s'agit bien évidemment de L'étrange Noël de Monsieur Jack, imaginé par Tim Burton, réalisé par Henry Selick et avec les compositions de Danny Elfman. Il est sorti en 1993. Alors c'est un film d'animation en stop motion qui nous emmène dans l'histoire des fêtes, on vient de l'entendre. Et L'étrange Noël de Monsieur Jack nous plonge dans deux univers très marqués qui n'ont rien à voir. Celui de Noël et celui d'Halloween, avec des personnages aux personnalités, visages et costumes très forts. Mais plutôt que d'examiner les méandres du synopsis et tous les récits qui se croisent, j'aimerais vous montrer comment Jack est un personnage auquel on peut particulièrement s'identifier aujourd'hui. C'est d'abord un professionnel, impliqué, engagé, compétent, mais qui a perdu le sens de son travail. Comme nous tous, il doit se réinventer.
Mais jour après jour, c'est la même déprime. Je n'éprouve plus rien en commettant mes crimes.
C'est aussi d'ailleurs ce que j'aime dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est qu'il y a un film, c'est un film pour tous les âges, où il y a de la place pour la mélancolie et même pour le désespoir. Là, c'était un extrait de La Complainte de Jack. Et je me reconnais aussi dans l'obsession de Jack qui chante « Je veux comprendre, je veux comprendre », lui qui est fasciné par l'esprit de Noël, qui lui est au départ si étranger. Et je crois qu'aujourd'hui, cette année, lui et nous sommes exactement à la même page.
Noël approche et j'en perds le nord. Pourrais-je y survivre? Je l'ignore. Il y a tellement de choses qui m'échappent. Quand je crois franchir l'ultime étape, sous mes doigts squelettiques tout s'éclipse. C'est un cauchemar, c'est l'apocalypse.
Vous l'aurez compris, je me sens particulièrement proche de lui aujourd'hui et je réalise que j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Dès que j'entends des notes, ça m'embarque quelque part, car oui, c'est avant tout un film musical. Et oui, c'est important, Céleste est ravie. Pour Jack, mais aussi pour tous les autres personnages, Oogie Boogie, Sally, le docteur Finkelstein, le Père Soreille ou les Garnements, qui sont tous aussi effrayants que réjouissants, je vous invite à regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack encore et encore pour savoir si Noël aura à nouveau lieu cette année.
Alors, il m'incombe la lourde tâche de clôturer ce florilège de Noël. Et donc, je vais essayer de vous remonter le moral après cette chronique mélancolique. Alors, si je vous dis casting qui brille de mille feux, Hugh Grant, Colin Firth, Bill Nighy, Emma Thompson, Keira Knightley, Liam Neeson, Rowan Atkinson et même Claudia Schiffer... Si je vous parle film choral, avec plus d'une vingtaine de personnages et une dizaine d'intrigues parallèles, mais promis, on comprend tout. Si je précise Londres, ses illuminations de fin d'année, ses pavés luisants, ses quartiers résidentiels chics et ses banlieues plus populaires. Si je lance l'expression « comédie romantique de Noël » et que je complète avec le souvenir d'une déclaration d'amour clandestine écrite sur des pancartes pendant qu'un antique magnéto, eh oui, ça existait, diffuse des cantiques de Noël, si j'évoque un premier ministre anglais charmeur et célibataire, alors non, c'est pas un documentaire sur Boris Johnson, surtout si j'ajoute que ce premier ministre n'hésite pas à faire quelques pas de danse quand il se croit enfin seul au 10 Downing Street, mais est-il jamais seul ? Et qu'il ose rabrouer publiquement le président américain. Si je mentionne un écrivain en panne d'inspiration, un père veuf qui tente de guider son fils sur les traces du premier amour, et une épouse trompée qui fait face, si je termine avec un musicien has-been qui, au début du film, tente de faire un comeback lucratif avec son producteur et ami de toujours, en adaptant, non sans mal, le tube « Love is all around » en « Christmas is all around », c'est pas si simple, écoutez donc.
Fingers, I feel it in my toes.
I feel it in my toes, yeah.
Love is all around me.
All around
and
me.
So the thing.
I'm afraid you did it again, Bill.
It's just I know the old version so well, you know.
Well, we all do. That's why we're making the new version.
Right, okay, let's go.
Vous aurez bien sûr reconnu Love Actually, un film de Richard Curtis, sorti en 2003.
Oui, il n'est pas tout récent.
Car il y a des notes. Eh bien, merci pour ce florilège de films de Noël. Merci beaucoup.
De rien.
Céleste, Rudy, Margot. On poursuit en musique, cette oreille curieuse. Alors j'ai choisi quand même de sortir un peu de l'esprit de Noël pour pas être un peu monomaniaque. On va écouter Super Zodiac de Jazz de The Comet Is Coming.
Thank you.
fidèles auditeurs et auditrices auront reconnu le générique de la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît. Salut Benoît.
Salut Annie, bonsoir à tous.
Heureuse de te retrouver pour cette chronique.
En vrai,
oui. Oui, en vrai.
C'est toujours mieux quand même, hein, y a pas à dire. Même oui. Si la technologie, elle est facilitante.
Tout à fait. Et puis on n'est pas sûr que ça dure, mais je suis ouais. Ravie.
Bon, en tout cas, c'est pas mal. Donc ce soir, comme d'habitude, pas d'agenda. Voilà, mais les gens ont de quoi s'occuper. Il y a du grain à moudre hein, sur les réseaux un peu partout, sur internet, il y a énormément d'informations. Du coup, comme c'est probablement la dernière émission de l'année, je vous ai concocté une petite rétro 2020 d'actu, sciences technologiques, découvertes, etc.
Recherche, ok.
Ouais, donc alors, je suis pas trop orienté Covid hein, quand même, parce que ça a été le gros morceau de l'année. Hein, alors aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé qu'il y a un an, les gens sauraient ce que c'est un vaccin à ARN, ni même que les gens prononcent l'ARN. Et c'est génial parce que c'est un mot qui est passé dans le langage courant. Alors je suis pas bien certain que les gens aient compris exactement ce qu'était l'ARN. Bon, ça c'est pas le sujet du soir, mais voilà, on va essayer de pas trop en parler, mais on va quand même commencer par ça, puisque cette année il a fallu très rapidement tester les gens hein, et les tests avant le Covid, il y en avait pas, il a fallu en faire, donc il en existe beaucoup, plus de 80 des tests antigéniques.
Tu veux dire spécialement autour du COVID, coronavirus, autour de la SARS-CoV-2 COVID,
c'est ça. Okay. Et donc, évidemment, le principe des tests, il fonctionne à peu près de manière identique pour beaucoup de virus. Donc, ils ont montré qu'on a pu faire des tests rapides et efficaces, notamment les tests PCR. Mais les tests PCR, il faut un ou plusieurs jours pour avoir le résultat. Alors les PCR, il s'agit, pour résumer, c'est une amplification génique. Donc on a des petits bouts de séquences du virus qu'on connaît. Et du coup, dans une machine voilà, un peu complexe, si dans un échantillon biologique prélevé, il y a ces séquences-là, la machine les amplifie et on voit, en fait, on arrive à les détecter comme ça.
C'est comme un gros zoom sur qu'est-ce qui est venu dans ton organisme.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, ça multiplie, ça fait des copies, des copies, des copies. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à voir on arrive à détecter la présence de petites séquences d'ADN d'un organisme particulier, et là en l'occurrence du virus. Il y a d'autres tests qui sont plus classiques, qui sont des tests antigéniques, donc eux qui repèrent c'est une réaction immunologique, qui repèrent les anticorps, enfin les protéines qui ont été sécrétées par le corps. Et eux, ils sont très, très plus faciles d'utilisation et on a les résultats en 15 minutes. Donc là, on en entend aussi pas mal parler. Ils sont assez performants, hein, donc à plus de 93% selon la haute autorité de santé en France. Donc c'est un outil important dans la stratégie de lutte. Hein, quand on va se faire tester, c'est intéressant de savoir quel test est utilisé et comment il fonctionne.
Oui, parce qu'en plus, ils ne marquent pas la même présence dans le virus. Enfin, il y en a un, c'est à l'instant T, et un, c'est si tu as rencontré le virus un jour.
Peut-être, oui, peut-être. Oui, évidemment. Ouais. Oui. Quand, celui qui teste tes anticorps, évidemment, il arrive à savoir si tu as déjà été infecté. Bon, voilà, alors ça, c'était la petite info Corona. mais en tout cas, il y a eu énormément de recherches. C'est vraiment sans doute le domaine de la science, de la médecine, où il y a eu le plus de recherches cette année, le plus de publications. On en a énormément entendu parler. D'autres actus, c'est que la NASA a lancé une fusée avec une sonde, même plutôt un véhicule carrément, pour aller sur Mars, qui s'appelle, c'est un rover, hein, il y en a déjà eu un il y a longtemps, mais celui-là s'appelle Perseverance. C'est bien, on y croit. Et l'idée, c'est de vraiment récupérer des preuves directes de la vie martienne. Donc, c'est un engin qui devrait atterrir sur Mars en février prochain. Et donc, il embarque tout un tas de dispositifs de mesure, caméras, spectromètres, qui vont essayer de trouver des molécules biologiques. Ils vont aussi faire des sondages dans le sol. Il y a une foreuse qui va récupérer des morceaux de sol, etc. Donc voilà, ça pèse plus d'une tonne, c'est sur le chemin là, donc en ce moment,
dans
l'espace,
entre la Terre et Mars.
Exactement, c'est dans l'espace, et puis voilà. Alors il faut savoir que c'est un véhicule qui est propulsé à l'énergie nucléaire, et il est censé avoir une autonomie de 14 ans, donc c'est pas mal.
Tu veux dire qu'embarqué dans le véhicule, il y a des choses nucléaires?
Ouais, il y a du combustible nucléaire qui fournit l'énergie en fait.
Ah oui, C'est pas simple d'aller.
Bah oui, alors c'est quand même un des modes d'énergie les plus efficaces qu'on connaisse aujourd'hui. Dans les autres infos, alors ça intéressera peut-être les vieux geeks qui ont joué il y a très longtemps sur les vieux PC à Flight Simulator, donc qui était un jeu de simulation aérienne. En fait, on pilote un avion, alors il y a tous les instruments et tout, et c'est marrant parce que c'est un jeu très ancien. Au début, on jouait sur les disquettes souples, enfin sur les vieux PC et tout. Ça a évolué et aujourd'hui c'est quasiment devenu un truc professionnel. On pourrait je pense presque apprendre à piloter avec ça, et la version qui va sortir prochainement, eh bien elle est c'est plus vrai que nature, quoi. On est vraiment dans du réel, il y a un réalisme qui est assez fou. Donc pour les amateurs, ils sont au courant, les passionnés, donc je pense qu'ils vont se précipiter sur ce jeu. Autre info, cette année, une voiture électrique solaire qui est un projet qui remonte à assez longtemps, à plus de 10 ans, en 2007, qui a été stoppé et puis qui est reparti l'année dernière. Le projet s'appelle Aptera, donc c'est le nom de la voiture. C'est une voiture à trois roues. Alors on est carrément dans la science-fiction quand on voit sa physionomie. Et ils annoncent sa commercialisation par une start-up. Hein, ils ont déjà reçu 3000 précommandes. Alors j'ai pas le prix, à mon avis c'est extrêmement cher. En tout cas, ils annoncent une autonomie pour un véhicule solaire à batterie, c'est quand même assez exceptionnel, de 1600 km. Donc pour le modèle le plus cher, avec la batterie fait 100 kWh, donc c'est assez énorme. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, on peut faire tous les jours avec cette voiture 70 km sans avoir la recharger, c'est-à-dire que c'est uniquement les panneaux solaires qui vont intervenir. Donc et dans la communication autour de ce véhicule, évidemment le slogan, c'est zéro recharge.
Ah oui, et puis zéro émission de carbone.
Exactement.
Ça sonne plutôt intéressant.
Alors hormis ce qui est consommé pour la fabrication, mais entendu, par rapport aux batteries et tout, évidemment ça se calcule aussi, mais
en tout cas
sur l'utilisation, ça semble intéressant. Il faut savoir que la plupart des gens qui utilisent leur véhicule, notamment les véhicules à moteur atmosphérique, hein, qui sont des émetteurs de carbone assez importants, ils font peu de kilomètres, les gens, pour un trajet de 50 ou 70 kilomètres par jour, ça couvrirait les besoins de la plupart des Français, en fait. Puisqu'au-delà, souvent les gens prennent le train ou ont d'autres véhicules. Alors, une autre info, ça concerne un lait qui a été inventé. En fait, c'est du lait sans lait.
Du lait à boire, hein, on est d'accord.
Oui, du lait à boire, oui. Oui. C'est pas LAID, ça
oui,
on aurait pu.
Ou une lait.
En matière génétique, on peut faire plein de choses. Tu sais que, alors là, j'ai quelques chiffres, hein, la production d'un kilogramme de beurre émet presque 10 kilos d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Alors évidemment, ça comprend tout, depuis l'élevage laitier, la production du lait, etc. Et puis, faire un litre de lait entier émet 1,63 kg d'équivalent CO2. Donc c'est beaucoup plus, par exemple, que du lait de soja ou du lait d'amande. Évidemment, le lait de soja et le lait d'amande, c'est pas comme le lait, et ça a pas les mêmes,
produits différents,
pas le même goût, ça a pas la même valeur
origine,
nutritive,
ouais.
Etc. Nous, on est des mammifères, et quand on est petit, on doit boire du lait, et pas du lait de soja ou du lait d'amande. Donc il y a une start-up qui a développé un lait. Figure-toi, ils ont fait fabriquer un lait par des levures modifiées génétiquement. Et donc, ces levures qui ont été modifiées par l'insertion d'un gène d'une vache, elles sont nourries avec du sucre et on les met à fermenter, en fait. Et du coup, elles produisent les protéines du lait, donc la caséine et le lactosérum. Donc, c'est les constituants qu'on trouve habituellement dans le lait. Et du coup, à partir de ça, on peut faire un ersatz de lait, une sorte de lait synthétique, et qui a l'avantage de ne pas contenir de lactose. Et il s'avère que la plupart des gens qui sont intolérants au lait, en fait, sont intolérants au lactose. Donc c'est peut-être aussi une solution d'apport de protéines du lait pour les gens qui sont allergiques.
Ouais, puis voilà. C'est intéressant aussi de pas avoir à prendre en charge, si je comprends bien, aussi toute la partie élevage, qui
voilà,
consomme aussi
ça.
Beaucoup.
Du coup, on élève et on sélectionne des levures et on les modifie génétiquement. Voilà, ça ouvre un autre débat, un débat éthique.
Faut-il modifier
qu'on va
le...
pas qu'on va pas résoudre ici ce soir. Là, c'est juste pour vous donner un peu
d'actu. C'est l'actu, voilà.
Exactement. Il y a une autre invention qui a été assez remarquable aussi. Ça concerne les myopes. Alors il y a beaucoup de myopes, hein, parce que alors, à l'occasion j'ai lu cette info. C'est je pensais pas un tel chiffre. Un Français sur cinq est myope. Alors ici,
on a pas mal de lunettes dans le
sur
studio.
Sur 4 personnes, on est 3 à avoir des lunettes déjà. Alors,
je ne suis pas myope.
Moi, je ne suis pas myope non plus.
Non plus, je suis pas myope.
Bon, voilà. Donc, on n'est pas un bon échantillonnage.
On est 5, mais raté. Ouais.
C'est ça. On n'est pas le bon échantillonnage de personnes. Donc, il y a aussi un Français sur deux qui pourrait devenir myope d'ici 30 ans. Donc, c'est ce qui est assez énorme. Et ça, en raison de quoi? En raison de nos modes de vie, et notamment des écrans. Les gens qui sont arrivés sur leur téléphone, qui ont des écrans. Alors, on voit de moins en moins de très grands écrans. C'est plus à la mode. Mais je pense que c'était quand même moins dérangeant pour les yeux. Aujourd'hui, les gens sont revenus à des écrans et des tailles de téléphone, on va dire, raisonnables. Mais par contre, ils passent leur temps à lire voir des contenus là-dessus, regarder des films, lire des textes, ce qui est assez compliqué. Donc, il y a une société japonaise qui a présenté, lors d'un congrès d'ophtalmologie, un verre de lunettes qui se contente pas de corriger la myopie, mais qui la soigne. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, en fait, le problème de la myopie, c'est que quand un enfant est myope et qu'il grandit, son œil s'agrandit. Donc, en fait, ça, de manière inexorable, la myopie s'aggrave avec la croissance. Donc, ce verre-là, il a une zone, il est doté d'une zone centrale qui corrige la vision. Et autour de cette zone centrale, il y a des segments, alors dits de défocalisation, qui limitent la croissance de l'œil. Donc, ça limite l'évolution de la myopie. Et d'après la société qui fabrique ces verres, la myopie serait freinée de 59% en moyenne. Donc, ce qui est assez énorme pour les cas graves de myopie.
Et juste en portant des lunettes, sans intervention.
C'est ça. Alors, c'est vrai que pour les gens dont la croissance est terminée, en général, on peut opérer la myopie. Je pense que c'est une opération qui est assez courante désormais.
C'est beaucoup développé. Et puis, on peut faire des pauses aussi quand on regarde beaucoup les écrans. Il faut regarder au loin régulièrement.
Oui, exactement. Il faut penser à ça aussi.
Ça ne fera pas de mal.
Tout à fait. Autre info spatiale, l'Agence spatiale européenne, a envoyé une sonde pour étudier le Soleil qui s'appelle Solar Orbiter. Donc voilà, elle est partie, elle est en route.
Elle aussi.
C'est ça. Donc elle va aller comme assez près du Soleil, à moins de 42 millions de kilomètres, donc ce qui est très près. Hein.
C'est vrai.
Et oui, parce qu'il fera déjà à 42 millions de kilomètres, entre 500 à 600 degrés. Hein.
Dans l'espace, quoi.
Dans l'espace, là, c'est ça. Donc tu vois un peu. Donc le Soleil, ne pas s'en approcher. Soleil égale danger.
Mais il est loin. On sait combien il est de la Terre ou pas?
Ah oui, on sait la distance. Alors je l'ai pas en tête, mais ça se retrouve extrêmement facilement la distance Terre-Soleil. C'est facile.
C'est
on l'a mesuré et très bien mesuré. Et le Soleil, c'est un astre qui est vraiment bien étudié et très observé. Donc, sur cette sonde, évidemment, il y aura plein d'instruments de mesure, etc. Et aussi un énorme bouclier de protection, un bouclier thermique en titane, justement pour protéger tous les instruments de mesure. Donc, des résultats sont attendus. À faire à suivre. Alors un autre, on fait un lien avec le soleil aussi parce qu'il y a une invention qui va intéresser la plupart des automobilistes désormais. Il y a une société allemande qui intervient dans l'équipement des voitures qui a mis au point un pare-soleil intelligent pour les conducteurs. Et tu as remarqué que quand on conduit vers l'ouest le soir ou vers l'est le matin, on est gêné par le soleil et c'est même extrêmement gênant. Dans certains contextes, on peut être aveuglé, voire ne pas voir ce qu'il y a autour. Mmh. Tu vois exactement ce que je veux dire. Je pense qu'il y a du vécu. Et donc, ils ont constaté aussi que quand on baisse le pare-soleil, ça limite extrêmement le champ de vision. Évidemment, on limite la visibilité au niveau du pare-brise, ce qui peut être dommageable, notamment en matière de sécurité. Eh bien, eux, ils ont inventé un pare-soleil qui est complètement transparent, et c'est un pare-soleil intelligent qui fonctionne grâce à un écran LCD transparent. Donc le pare-soleil est un écran et il a une caméra qui fixe les yeux du conducteur.
La conductrice, ouais.
Et en fait automatiquement il y a une zone d'ombre qui se crée sur les yeux du conducteur et pas ailleurs.
Donc, et en fonction de là où la personne regarde.
Exactement. Donc, mais ça, c'est carrément génial. Et donc, on peut imaginer aussi plein d'autres applications. Mais en tout cas, en voiture, ça peut être super intéressant. Mais on imagine ça aussi sur les casques de moto ou sur les, etc., etc.
Et il pourrait afficher en fait plein de choses cet écran.
Ouais. Alors, figure-toi que ça, ça existe.
Ah oui.
Alors, il y a certaines voitures en sont équipées. Il y a les infos à l'écran, les infos de compteur, les infos
sur
de.
Sur le pare-brise.
Ouais. Ah oui. Évidemment, on diffuse pas des films, mais il y a les infos qui ça existe déjà.
Mais tu sais, moi, ma voiture, elle a même pas les poignées électriques, donc.
Oui. Moi aussi, j'ai une vieille voiture. Rassure-toi. Mais bon. En tout cas, le progrès.
Est en marche.
Le progrès est en marche, exactement. Et en matière de progrès et d'écran, figure-toi que bien prochainement, les télés dans les maisons seront transparentes. Il y a une marque qui a inventé un écran télé en fait qui est complètement transparent, qui a une ça ressemble à juste une vitre, on dirait un écran de verre. C'est un écran qui fait à peine plus de 5 mm d'épaisseur. Donc il est invisible à l'œil nu, on peut dire. Et quand il est éteint, en fait, il est même transparent. Donc c'est assez génial. Donc, il faut le voir à quoi ça ressemble. Bon, pour l'instant, c'est encore très cher et il y a plein de fabricants qui réfléchissent à cet aspect des écrans télé. Mais c'est un fabricant chinois qui l'a mis en vente là et ça coûte quand même plus de 6 000 euros. Ça fait un peu cher la télé, mais bon, ça intéressera sûrement les riches et passionnés d'écran.
Oui, et ça veut dire qu'on peut regarder le film dans les deux sens? Tes voisins, si tu
écoute,
mets devant
là, c'est une très bonne question, sans doute. On peut voir le film à l'envers. Ça va être gênant pour les sous-titres, pour les films sous-titrés, mais c'est, pourquoi pas. Il sera visible des deux côtés. Et puis pour finir, je pense qu'il me reste encore quelques secondes.
Non,
j'espère.
On est déjà en retard.
C'est la dernière. Là, tu vas me faire cette faveur.
Oui.
Je suis désolé. Il y avait peut-être une émission après, non?
Non, tout va bien.
Tout va bien, super, génial.
On ne prend le terrain de personne.
Ouais, donc dans ce qui s'est aussi passé en 2020, ça c'est un peu moins drôle, mais alors c'est arrivé à plein de moments, mais dès le 1er janvier, il y a eu l'IUCN, donc l'Institut. Institut ou l'Union pour la conservation de la nature, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Oui, c'est dur. Je viens
de réviser. C'est la fin
donc,
de l'année.
L'IUCN, ça c'est l'acronyme anglais, a déterminé que l'espèce de poisson Psephurus gladius était éteinte. Donc voilà, elle avait disparu depuis longtemps. Alors c'est un poisson. Alors ça va vous parler. On l'appelle l'espadon de Chine. Donc c'est une sorte d'espadon avec un long rostre, un très grand poisson qui pouvait atteindre plusieurs mètres de longueur. Donc il était devenu rarissime et là on l'a tellement pas vu depuis longtemps qu'on a déclaré l'espèce éteinte. Donc c'est vraiment dommage. Et alors hélas c'est arrivé pour plein d'autres espèces cette année. Je fais pas de dessin. Un poisson d'eau douce en Chine, hein, on connaît à peu près les causes de la disparition. On va remonter un peu plus loin dans le temps et on va s'intéresser à l'homme en Europe il y a longtemps. Figure-toi que des chercheurs français ont découvert sur un fragment d'éclat de silex préhistorique, une micro-particule, un petit bout de cordelette. Alors, ils ont analysé cette cordelette et ils l'ont datée de 42 000 ans. Et donc, elle aurait été faite ou tressée par l'homme de Néandertal.
Ce fameux homme de Néandertal.
Voilà. Alors que jusque-là, la plus ancienne corde ou cordelette qu'on connaissait, elle avait été fabriquée par Homo sapiens, mais il datait à 20 000 ans. Donc voilà, l'homme de Néandertal, on lui découvre toujours de plein de qualités, et voilà, c'en est encore une. Donc on sait qu'il enterrait ses morts, il ornait les tombes, il avait des bijoux, il y avait de l'ornement chez Néandertal, et il tissait les cordes aussi. Donc c'est assez exceptionnel comme découverte. Rien à voir dans le nord de l'Espagne aussi, au mois de mai, pour la première fois depuis 150 ans, donc dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice, on a observé un ours. Donc ils sont dans les Pyrénées, les ours, mais ils n'ont pas une
volonté de s'étendre.
Alors peut-être dans les Pyrénées, mais pas à l'ouest, sur la côte nord de l'Espagne. Donc là, ils ont observé là, donc c'est plutôt, ça c'est une bonne nouvelle. C'était le 2 mai, est-ce qu'il y a un effet confinement ? On ne sait pas, on sait que la faune sauvage a par moment, dans certains endroits, quand même pas mal profité du confinement. On revient à Homo sapiens avec une publication dans Nature au printemps. Donc ils ont daté une dent au carbone 14, une dent humaine, donc retrouvée en Bulgarie. Donc sur un endroit qui était caractéristique d'hommes de Néandertal, hein, puisque la culture, les outils trouvés sont des outils de Néandertal. Et donc cette dent-là, il s'avère que c'est une dent d'Homo sapiens, donc d'homme moderne, et qui est datée de 45 000 ans. Donc ça remonte de 5 000 ans, le plus vieil homme moderne en Europe. Avant, ils étaient arrivés vers 40 000 ans et là, ça serait plutôt 45 000. Donc voilà, au gré des découvertes, tout avance. La science avance aussi par les découvertes. Autre découverte intéressante.
Tu m'avais dit que c'était la dernière tout à l'heure, mais vas-y.
Ah non, ça y est, je termine. Hein. Excuse-moi, je suis désolé. Mais tu m'as dit, on explose le temps, moi j'y vais.
Vas-y.
Donc, une découverte qui intéressera les amateurs d'Amérique. Hein. D'Américains ou d'Américaines, et ça concerne la population, la première population en Amérique. Jusqu'à présent, on faisait remonter les premiers Américains à environ 15 000 ans. Et on a découvert des restes archéologiques, notamment des outils en pierre, dans une grotte mexicaine, dont les pluvions ont été datées grâce au carbone 14 à entre 30 et 33 000 ans. Donc et que le site il a été occupé pendant 20 000 ans, donc ça ferait remonter l'occupation de l'Amérique ou des Amériques.
Oui, qui s'appelait même pas l'Amérique. On parle des peuples avant l'arrivée des Européens.
Exactement.
Ouais.
Donc en fait les ancêtres des Mayas, des Indiens.
Oui.
Donc à 32 000 ans. Donc ça double l'ancienneté du peuplement. Donc ça, là encore une fois, c'est une découverte qui remet en cause pas mal de choses. Et pour finir, ça y est, je suis attendu. On est encore avec dans l'histoire de l'homme. Alors là, c'est très bien en ce moment en hiver, juste avant d'aller se coucher. On a découvert dans Afrique du Sud, dans la grotte Border Cave, une litière faite de tapis de cendres et de plantes. Et donc son âge est estimé à environ 200 000 ans, ce qui en fait la plus vieille couche construite de la main de l'homme connue. Donc il y a 200 000 ans déjà, des hommes aménageaient un petit endroit douillet pour passer la nuit. Voilà, donc c'était sympa pour finir ce soir.
Ouais, ça c'est une invention que je suis contente qu'on ait gardée.
Je pense que c'est une invention qui est encore beaucoup plus vieille.
De dormir confortablement.
C'est ça.
Merci beaucoup Benoît. Pas d'autres news ?
Ah non, c'est terminé. À l'année prochaine.
Bon, les prochaines actus en 2021. Merci Céleste et Mehdi pour tout à l'heure la chronique.
Merci à toi. Ouais.
C'est la fin de cette émission et de cette année radiophonique étrange 2020. On espère que celle de 2021 sera un petit peu moins imprévisible. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pourrez retrouver tous les podcasts des émissions en ligne sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse. On se retrouvera donc début janvier. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux de Radio G, Instagram, Twitter, Facebook ou notre site internet, on a un mail. Hein. Et à 19h, dans quelques minutes à peine, une minute je crois, vous allez retrouver droit devant l'émission de Amnesty International d'Angers. Passez une très bonne soirée, des belles fêtes, dans 2 semaines je crois. Hein.
Ouais, c'est ça.
Radio G 101.5 FM.